sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame la directrice de cabinet représentant le président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des cinq académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. La tradition et les statuts de l'Institut de France qui se composent des cinq académies veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement M. Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli. Monsieur Paul Andreu, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Monsieur Thibaut Damour, délégué de l'Académie des Sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ». Monsieur Bernard Potier, délégué de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». Monsieur Philippe Bossan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?». Le thème de cette année, « Le passé est-il passé ?», a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre, dans certains cas, au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Petra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires, où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle. La parole est à M. Georges-Henri Soutou, historien de l'époque contemporaine, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli ».
Le sentiment du passé est le propre de l'homme. Mais cette dimension anthropologique essentielle du récit de la Genèse aux passions mémorielles de notre temps se situe entre deux pôles contradictoires. D'un côté l'obsession, de l'autre l'oubli. Que celui-ci soit provoqué par l'usure du temps, par l'évolution culturelle ou sociale, ou par la volonté idéologique du passé, faisons table rase. Mais l'oubli débouche parfois sur une résurgence inattendue, sur une revanche du passé qui suscite souvent l'exacerbation de la mémoire par la suite. Le passé, c'est à la fois une suite d'événements singuliers et un ensemble de structures qui progressivement se construisent. Les historiens distinguent entre le temps court, les circonstances politiques, les crises de toute nature, et le temps long, les phénomènes religieux, culturels, socio-économiques, qui se déroulent parfois sur des siècles, voire des millénaires. Une structure ne débouche pas forcément sur un événement. En revanche, à certaines bifurcations historiques, un événement peut engager l'avenir à long terme et cristalliser une nouvelle structure. On aura les conséquences, disait Jacques Bainville à propos du traité de Versailles. Les fameuses leçons du passé ne nous disent rien sur les événements susceptibles de se produire. En revanche, elles nous éclairent beaucoup sur les structures à long terme dont il faut tenir compte pour l'action dans tous les domaines. Pour l'Antiquité, il existait un continuum du passé légendaire épique au présent. À un âge d'or légendaire succédait un présent, mais un présent stable dont on n'envisageait pas la fin. Donc, il s'agissait là d'un passé devenu une sorte de présent permanent ou redevenu présent dans un éternel retour et qui ne passait pas vraiment. Les religions révélées, en revanche, et en particulier le christianisme, introduisent un futur, une direction de l'histoire, un vecteur. La création, la chute, le Messie, le retour du Messie, l'avènement du royaume de Dieu qui abolit le passé dans l'éternité. Relisez à ce sujet les pages d'Henri Maroux ou de Paul Ricoeur sur la notion toute nouvelle du temps et du passé apportée par le christianisme. L'ancien régime européen est schizophrène. Sur le plan religieux, il adhère évidemment à ce que je viens de dire. En revanche, sur le plan de la cité terrestre, le passé est pour lui la source de toute légitimité, de toute norme, et donc ne passe pas vraiment, ne doit pas passer. Pour les modernes, le passé passe, l'humanité suit une direction, mais sécularisée. Il existe une eschatologie des idéologies modernes, mais avec une ambiguïté fondamentale. On veut rompre avec le présent et le passé proche pour rejoindre un futur lumineux, mais en même temps, on pense revenir à un passé plus ancien, une sorte d'âge d'or au-delà de la corruption du présent. C'est le mot même de révolution qui est ambigu. Il signifie rupture, mais aussi cycle, retour à l'état de choses ancien. La Révolution française proclame un retour rousseauiste à l'état de nature, par-dessus l'obscurantisme du Moyen-Âge. C'est pourquoi elle prétend s'inspirer de Rome, jusque dans ses cérémonies, jusqu'au titre de premier consul. C'est rompre avec un passé récent, mais pour retrouver un passé plus ancien, bien entendu mythifié. Pour Engels, la société primitive était communiste, avec possession collective des terres. La lutte des classes n'avait, selon lui, commencé qu'après sa dissolution. La société sans classe du futur, c'était donc aussi un retour à l'âge d'or. Selon la dialectique hegélienne, ou celle d'Auguste Comte, ou celle de Marx, l'humanité passe par des âges successifs. Mais chaque fois, le passé est repris et transformé. Il ne passe pas vraiment. Dans la même veine, et en conséquence, on trouve l'historicisme, courant intellectuel fondamental au XIXe siècle. Tout le présent s'explique par tout le passé. Si les XVIIIe et XIXe siècles ont inventé l'histoire scientifique dans ce contexte philosophique, ce n'est pas par hasard. Finalement, le passé ne passe pas si facilement que ça, même pour des révolutionnaires. Car le passé est rusé. Tocqueville, dans « L'Ancien Régime et la Révolution », note la persistance de structures essentielles de la France monarchique au-delà des circonstances politiques et au-delà du discours. Il note même la réalisation par la Révolution et l'Empire de ce qui n'avait pas été achevé par la monarchie, comme la centralisation du pays. Et de fait, Napoléon reprit de nombreuses institutions monarchiques sous un nouveau nom. Quant à la Restauration, elle se garda bien de toucher aux préfets ou aux codes civils, qui lui-même reprenait en grande partie et codifiait les avancées juridiques du XVIIIe siècle. Quant à notre système fiscal, il manifeste une profonde et tranquille continuité depuis le XVIIIe siècle. Marc Bloch disait que pour comprendre la France, il fallait vibrer aussi bien au récit du sacre de Reims qu'à celui de la fête de la Fédération. Le passé était pour lui repris dans le présent avec une signification nouvelle, grâce à une continuité fondamentale, malgré les révolutions. Le discours proclame souvent la Révolution française comme une rupture radicale et proclame la naissance d'un pays nouveau en 1789, comme souvent chez nous, la réalité est plus complexe. Problématique similaire avait été bien étudiée pour le cas passionnant de l'Union soviétique, prise entre le passé russe et le présent soviétique, d'une façon qui n'était pas toujours facile de décrypter. Cette problématique est aussi une clé d'explication pour la Chine actuelle. Elle est aujourd'hui un enjeu essentiel pour ce pays, comme d'ailleurs pour la Russie. Dans les deux cas, le passé est-il définitivement passé? La Russie avec Lénine et la Chine avec Mao ont-elles changé d'univers? Même la Russie post-communiste n'est pas une restauration de la Russie devant 1917. On peut se demander si la chaîne des temps n'a pas été rompue. Les Russes du passé ne réussissent pas toujours. En effet, le passé est parfois dépassé. Il vient un moment où le changement a été trop profond. Il ne peut pas survivre ou réapparaître. L'Égypte des pharaons, Moyen-Orient chrétien d'avant l'islamisation, sont des régions où le passé n'a pas seulement été dépassé, il a été éradiqué et purement et simplement oublié, sauf par des minorités ethniques ou religieuses, ou par les archéologues, bien sûr. Cependant, les hommes, à travers les civilisations, ont toujours fait la distinction entre le passé, même légendaire, et le présent. Le vrai problème paraît être le rapport du présent au futur. Là, les conceptions sont très différentes. Prévoit-on continuité et permanence ? Prévoit-on une évolution ou la rupture ? Pour préparer l'avenir, faut-il rompre avec le passé ou s'appuyer sur lui ? Réagira-t-on comme les lettrés romains, désespérés lors de la chute de l'Empire d'Occident, ou comme l'Église, toujours prête à passer aux barbares ? Ou réagira-t-on comme nos contemporains, que je qualifierais ici de schumpeteriens, disposés qu'ils sont à voir la reconstruction dans la destruction elle-même ? C'est la question politique, sociale, culturelle essentielle. Mais une vraie compréhension du passé n'exige-t-elle pas un point de vue sur l'avenir ? Au moins la capacité de comprendre que celui-ci sera de toute façon différent et ne sera pas un retour en arrière. Ces questions nous orientent vers le paradoxe du passé. Le passé est passé, par définition, il ne reviendra pas, il est achevé. En même temps, c'est bien que le passé ne disparaît pas. Ses conséquences demeurent, ses traces se voient, des monuments aux traditions culturelles, nationales, familiales. Le passé fait partie de l'âme individuelle ou collective. Je vous propose deux voies pour tenter de résoudre ce paradoxe. D'abord, le passé est repris dans le présent. En même temps, il est constamment réinterprété dans un processus dialectique permanent entre réalité et représentation. Regardons d'autre part la science historique. En fait, elle n'est pas tant l'étude de la chronologie que celle des différences et des singularités. Prenons Hérodote. Certes, il a fondé le récit historique, mais il a fait bien plus. Il a étudié les différentes coutumes, ou comme on dirait aujourd'hui, les différentes cultures des peuples entrés en contact avec les Grecs et les Perses. Et il en retrace chaque fois l'histoire singulière. Et il trouve cette diversité tout à fait convenable et ne prétend absolument pas la remettre en cause. En fait, la perception de la différence peut faire prendre conscience du passé, ou du moins de la coexistence de rythmes d'évolution différents. Chacun peut l'éprouver en sortant de la gare à Venise pour déboucher sur le Grand Canal, en se rendant dans une oasis du Mzab, en visitant le musée national de Taipei, etc. Un voyage dans le passé, dit-on couramment d'une expérience de ce genre, même s'il est un peu journalistique, l'expression n'est pas sans signification. Le passé envisagé comme différence permet de comprendre comment le passé continue dans le présent. Les différents peuples, et dans chaque société, les différentes catégories, les différents groupes, les différents individus même, ne sont pas au même stade. Le passé ne passe pas partout et pour tous au même rythme. C'est en particulier là que la distinction entre structure et événement est essentielle. D'autre part, le passé ne donne pas lieu à une mémoire univoque. Les représentations divergentes, contrastées, voire opposées du passé national, que peuvent avoir au sein d'un même pays des groupes politiques, sociaux, régionaux, ethniques différents, dont les expériences sont différentes, dont les rythmes culturels ou psychologiques sont très variables, ou encore les mémoires antagonistes entre deux pays par rapport à leur histoire commune, tout cela en apporte l'illustration. Si en outre on admet que l'humanité connaît depuis le XVIe siècle une tension permanente entre mondialisation et particularisme, le passé et sa rémanence apportent un élément essentiel d'explication. On peut ainsi assumer ou dépasser le paradoxe du passé si on le comprend aussi comme différence et comme représentation. Le passé des groupes et des individus est têtu. Il faut des générations pour voir des populations changer de référence culturelle ou de mœurs. L'oublier au nom d'une conception abstraite de l'individu, c'est risquer bien des déboires, voire des explosions. Car une autre façon aussi d'échapper au paradoxe et au poids du passé, c'est de l'oublier ou de s'en libérer ou de s'en débarrasser. Or, la référence au passé, tout au moins comme facteur d'explication et d'orientation, est en net recul, me semble-t-il, dans le discours politique, dans les médias, dans les programmes d'enseignement, encore plus peut-être dans les autres pays occidentaux qu'en France d'ailleurs. Notre société occidentale n'innove-t-elle pas dans ce domaine ? Est-ce à cause d'un refus de principe de toutes les déterminations et de la volonté de s'en libérer? Est-ce à cause du recul des grandes idéologies eschatologiques du XIXe, dont j'ai souligné le rapport étroit qu'elles entretenaient avec l'histoire? Mais justement, les sciences historiques aussi évoluent. L'histoire universitaire actuelle tend à se dissoudre dans l'ensemble des sciences sociales. Ou alors elle étudie le passé non plus comme une réalité, comme un facteur objectif d'explication du présent, mais avant tout du point de vue des représentations subjectives que s'en font nos contemporains. C'est la société actuelle qui devient en fait l'objet de la recherche des nouvelles sciences sociales, ce qui est une autre façon, sinon d'oublier, du moins de relativiser le passé. Cependant, l'oblitération du passé ne risque-t-elle pas de conduire à une perte de repères, à une dégradation de la culture, de la vie civique, à l'absence de projets collectifs, à une politique de pure gestion? Vous allez me dire que les Français se passionnent pour les journées du patrimoine, pour les émissions historiques, etc. Et malgré l'évolution de fond que je viens de souligner, il y a à cela trois explications possibles qui, à mon avis, peuvent d'ailleurs très bien coexister. Après tout, nombre de nos concitoyens ont sans doute une vision équilibrée, cultivée, sans problème particulier, des liens entre leur passé, leur présent, leur avenir. Cependant, les Français éprouvent peut-être aussi bien le besoin confus de renouer avec leurs racines, de retrouver des repères, en particulier dans une période de bouleversement des horizons, provoquée par la construction européenne, par l'immigration, par la mondialisation. Dans ce cas, les Français se tourneraient vers le passé pour reprendre pied dans le présent. Ou alors, troisième hypothèse, à mon sens plus inquiétante, leur curiosité pour l'histoire qui manifeste se détacherait-elle de la notion d'un récit collectif et d'une réelle causalité historique? Leur besoin de passé subsiste-t-il, mais sous la forme d'un sentiment vague, d'une effusion, d'une recherche de la proximité ou d'une sorte de folklore? Devient-il alors ce passé un objet de consommation, comme d'autres formes de consommation culturelle? Mais le passé se venge, il ne se laisse pas oublier. Ainsi, les peuples des Balkans ou d'Europe centrale au XIXe siècle passaient brutalement de l'oubli de leur passé à une véritable obsession historique. Quant au Moyen-Orient, nous en donnons aujourd'hui de nombreux exemples. Ainsi, la France des années 40-44, un temps sinon occulté, du moins aseptisé, qui fit brutalement irruption dans la conscience nationale à partir des années 70. Cette réalité d'expérience induit deux modes de réaction. D'abord, ces retours en force contribuent au phénomène de reconstruction du passé, de recomposition, d'appropriation. On reconstruit le passé en fonction de sa vision du présent, son projet pour l'avenir. Car tout est construction chez l'homme. Le passé est donc constamment réinterprété, reconstruit. Cela vaut au niveau individuel comme au niveau collectif. Le discours politique repose sur une analyse du présent, un projet pour l'avenir, mais aussi sur une vision reconstruite du passé. Tantôt sciemment, tantôt par un processus complexe de triage, de mémoire sélective, de réinterprétation. Lavis, dans sa monumentale histoire de France, fait magnifiquement œuvre d'historien, mais en même temps il construit un socle de conscience historique nationale pour la Troisième République. Mais parfois aussi le passé occulté se venge et revient jusqu'à l'obsession. Ce fut la génération des années 60 en Allemagne, à propos de la période nazie, quand les enfants demandèrent à leurs parents quelle avait été leur attitude sous Hitler. Ce furent les réactions en France à propos de Vichy dans les années 70 et depuis. C'est la Yougoslavie d'après Tito, c'est la mémoire retrouvée des divers génocides en Europe et ailleurs. Ce phénomène est tout à fait compréhensible étant donné l'importance du passé pour l'âme humaine. Les peuples comme les individus ont droit à leur mémoire. En même temps, des excès ou des dangers sont possibles. Il n'est pas souhaitable, ni pour les personnes, ni pour les sociétés, de vivre dans le passé de façon obsessionnelle. Cela pose en particulier le problème des lois mémorielles qui se sont multipliées dans tout l'Occident depuis les années 70. Elles relèvent des autorités et des pouvoirs politiques. On peut comprendre les motivations de leurs auteurs. Les historiens, même s'ils n'aiment guère la régulation de la pensée, ne sont pas fondés à s'opposer à ces lois au nom d'un quelconque corporatisme, car ils ne sont pas propriétaires du passé. Mais en revanche, les historiens ont le devoir de réaffirmer que ces lois ne doivent pas nuire à leur liberté de recherche et d'expression. En fait, le devoir des historiens, ce n'est pas tant le devoir de mémoire que le devoir d'explication. La mémoire divise, l'histoire unie, comme l'a dit Pierre Nora. En effet, le danger, c'est l'instrumentalisation du passé. Elle a toujours existé, depuis les fausses chartes du Moyen-Âge jusqu'aux reconstructions politiques du XIXe et du XXe siècle dans les États européens nouvellement créés ou dans les régimes totalitaires. Ce risque d'instrumentalisation est aggravé aujourd'hui par le développement de la judiciarisation de la vie politique et aussi du passé au niveau national et même au niveau international. Ceci dit, le passé est certainement une chose trop sérieuse pour l'abandonner aux seuls historiens. Les responsables politiques s'en préoccupent et veillent aux célébrations nationales ou collectives. Parfois, il s'agit d'exorciser le passé, de le dépasser pour permettre une œuvre de reconstruction politique, comme Louis XVIII en 1815, « Union et oubli », proclamait-il, ou l'Espagne à la mort de Franco, ou encore sur un plan tout différent, la réconciliation franco-allemande. Inversement, on peut vouloir prendre à bras-le-corps un passé complexe, conflictuel, pour le gérer, pour lui donner un autre sens et permettre à une collectivité fragmentée de se réconcilier, de se retrouver. C'est ce que font par exemple les États-Unis, avec de grands musées où sont évoquées les mémoires des différentes composantes de la société américaine, le développement des Black Studies dans les universités américaines, ou encore le développement de l'histoire mondiale, Global History, censé dégager l'histoire de l'impérialisme d'un monde, selon la formule devenue fameuse, d'un monde blanc, mâle et mort. En Europe, de façon peut-être moins artificielle et plus satisfaisante pour l'esprit, on développe depuis une vingtaine d'années l'histoire comparée européenne qui vise à retrouver le substrat européen commun derrière les histoires nationales typifiées à partir du XIXe siècle. Le passé, et je conclurai ici, est donc avant tout le lieu de la singularité, de la différence. Il passe, mais sur des rythmes différents sont les populations et les individus. Le passé n'est pas une contrainte univoque, mais un champ de force, ainsi compris, assimilé, dépassé de façon dialectique, en évitant aussi bien l'oubli que l'obsession. Le souvenir et l'étude du passé permettent non seulement de mieux comprendre le présent, mais aussi de trouver des repères pour l'avenir, d'innover, de surmonter le poids de l'histoire, d'aider les hommes à vivre ensemble. Je vous remercie.